Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. Aujourd'hui, c'est donc avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Quand des enfants sont escortés par la police pour aller à l'école, cela se passe à Paris, dans le 18e arrondissement. Les élèves ont besoin de cette protection à cause des nombreux consommateurs de crack. Les syndicats reçus à Matignon, tour à tour aujourd'hui pour évoquer la réforme des retraites. Cette réforme devrait être présentée la semaine prochaine et ils n'ont guère d'illusions, les syndicats. Ils se préparent à une mobilisation massive en janvier. Plus que deux jours avant le match inédit entre la France et l'Angleterre en quart de finale du Mondial, les supporters outre-Manche sont, comment dire, dans leurs petits souliers. Ils redoutent Kylian Mbappé. Et puis la vérité selon Harry et Meghan, ça y est, les premiers épisodes du documentaire consacré au couple sont en ligne. On ne parle que de ça au Royaume-Uni. Juste après ce journal, nous serons avec notre correspondante Marie Billon, qui a regardé l'objet du délit.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en
aujourd'hui,
France.
Aujourd'hui, on part en Bretagne, Pascal. Les Côtes d'Armor à Lamballe, précisément. Quand on vous dit que tout est bon dans le cochon et pas seulement à table, la graisse de l'animal sert aussi de carburant. À midi 20, RTL Midi Votre Vie, plongez dans votre quotidien. Nous verrons combien il est utile de se plonger justement dans nos assurances, comparer, recalculer. L'exercice peut sembler laborieux, mais au final, il permet de très grosses économies. Et juste avant 13h, prouesse technique, visuel époustouflant, Avatar, la voix de l'eau sort la semaine prochaine en France. Stéphane Boutsock l'a vu en avant-première pour RTL. Et vous le suivez depuis ce matin sur notre antenne. Notre journaliste Christophe Bourou nous fait vivre une expérience incroyable.
Moi, j'ai peur quand je l'entends.
À bord d'une voiture autonome, vous pouvez conduire sans les pieds, sans les mains. On vous pose la question aujourd'hui sur le site RTL. Êtes-vous prêt à vous installer dans une voiture autonome?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. On reviendra forcément beaucoup sur le cas de Céline Dion.
Bien sûr, et avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Eh bien, ça va être gris quasiment partout avec le retour de la pluie par le sud.
RTL Midi.
Nouveau message de Céline Dion, donc, nouvelle déception pour ses fans. Elle ne peut toujours pas remonter sur scène et surtout dans cette vidéo Instagram. Pour la première fois, la star québécoise dit ce dont elle souffre.
Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février.
Concrètement, Steven Bellery, pour être un peu positive après ce message très émouvant, c'est un report, mais pas une annulation pure et dure de la tournée de Céline Dion.
Oui, c'est peut-être une lueur d'espoir pour les milliers de fans abasourdis par cette nouvelle. Céline Dion reporte pour la quatrième fois ses concerts, tournée mondiale d'abord stoppée par la pandémie, puis par cette maladie auto-immune également appelée syndrome de la personne raide. Il cause en effet des raideurs progressives des muscles du tronc et de la racine des membres. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne peut pas parfois marcher, que les cordes vocales seraient comme ça très difficile à utiliser. Céline Dion repousse 23 dates prévues de février à avril. Elle devrait remonter sur scène à Amsterdam le 26 août. Les dates prévues dans la capitale à Paris, la Défense Arena, du 1er au 10 septembre sont maintenues. Hélas, gros coup dur pour les vieilles charrues. Le concert est annulé. Il ne sera pas reporté à 2024. Le festival va rembourser les 55 000 Bretons. La star évoque un combat continuel et se veut toutefois rassurante. Un chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable.
Ne vous oublie pas, non, jamais.
Merci Steven Bellery pour RTL évidemment.
RTL Midi.
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, certains élèves de maternelle et de primaire sont obligés d'être escortés pour se rendre à l'école. Cela se passe dans le 18e arrondissement à Paris.
Oui, la police les accompagne tous les jours, matin et soir, pour éviter les mauvaises rencontres avec des consommateurs de crack. très nombreux dans le quartier. Pour RTL, Arthur Pereira, vous avez fait le chemin ce matin avec ces familles qui habitent de l'autre côté du périphérique. Là aussi, les parents jouent un grand rôle dans ce qui est devenu un rituel.
Sur le trajet de l'école, Sarah, 7 ans, s'agrippe fort à la main de son père. 900 mètres qu'ils parcourent ensemble et sous escorte policière.
On passe devant. Pardon.
5 agents à vélo encadrent un groupe de 15 personnes.
Ma fille, des fois, elle passe avec moi. Je m'en dis, papa, regarde les voleurs.
Ce qu'elle appelle les voleurs, ce sont en réalité des consommateurs de crack.
Des dizaines et des dizaines de toxicomanes. C'est une salle de consommation à ciel ouvert. Donc nos enfants voient du crack, nos enfants voient des actes sexuels en pleine rue et assez gore. Enfin, ils voient tout, quoi. Tout ce qu'ils ne devraient pas voir pour des enfants de maternelle et de primaire.
Priscilla, cette mère de famille, s'est presque habituée à ce quotidien.
Mon fils de maternelle, pour lui, son insulte quand il se dispute avec ma nièce, c'est va fumer ton crack à côté de l'école. Donc voilà où on en est, en fait. On voit des personnes sans pantalon, on voit des personnes dormir par terre, on voit des personnes sans chaussures, c'est compliqué pour des enfants de trouver les mots.
Une fois les grilles de l'école passées, l'inquiétude laisse place au soulagement.
C'est pas la solution, c'est pas parfait, c'est sûr que ça peut choquer vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, pour nous, c'est très rassurant.
Afin de renforcer le dispositif, un minibus a même été mis en place pour amener les enfants à bon port.
Le reportage d'Arthur Pereira pour RTL.
Les chefs des principaux syndicats reçus aujourd'hui par Elisabeth Borne pour parler à nouveau de la réforme des retraites.
Oui, comme RTL vous l'a annoncé il y a 10 jours, la Première ministre présentera le texte jeudi prochain avec une mesure phare, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Autant dire que la marge de négociation semble étroite, voire inexistante pour les syndicats reçus à Matignon, qui se projettent déjà au mois de janvier. Écoutez Philippe Martinez de la CGT.
Qu'on fait un point avec la Première ministre alors que les concertations ne sont pas terminées. On n'a toujours pas compris la méthode, quoi. On a réaffirmé notre opposition, évidemment, au report de l'âge légal à 65 ans ou à 64 ans. Nous lui avons proposé de d'abord travailler sur un certain nombre de mesures. Par exemple, comment on fait en sorte que les seniors restent jusqu'à l'âge légal d'aujourd'hui. On travaille sur les mesures de pénibilité, qu'on puisse travailler sur des pré-retraites progressives et qu'on voit à l'issue de 1 an, 2 ans, 3 ans de mise en œuvre de ces mesures, si le problème c'est l'âge légal ou pas. Elle n'est pas d'accord, puisqu'elle insiste sur le fait qu'il faut absolument travailler plus longtemps. Voilà où on en est.
Philippe Martinez avec Nerissa Emani. Autre information RTL sur le sujet. La réforme voulue par le gouvernement pourrait être incluse en janvier dans un texte budgétaire, ce qui permet d'avoir recours sans limite au 49-3 pour passer sans vote au cas où il n'y ait pas de majorité.
Quatrième jour de procès en appel de Nicolas Sarkozy. L'ancien président est rejugé pour corruption et trafic d'influence.
Et c'est le cœur de l'affaire qui est débattu aujourd'hui. Avec cette question, Anne Le Hennef, Nicolas Sarkozy est-il, oui ou non, intervenu pour obtenir un poste à Monaco au juge Azibert en échange d'informations?
Oui, il est interrogé sur des phrases embarrassantes tirées des écoutes. Par exemple, lorsque Nicolas Sarkozy dit à son avocat « Oui, je le ferai monter ». Nicolas Sarkozy, à la barre, a une explication. « Pour moi, c'est parfaitement clair, Madame la Présidente. Ça veut dire que je vais le recevoir. Vous connaissez bien l'expression « monter à Paris ». Il vit à Bordeaux, je le sais ». La cour est un peu interloquée face à ces explications. L'ancien président poursuit à la barre, très véhément. Il n'y avait aucune raison que je ne le reçoive pas, que je lui donne pas un petit coup de pouce, demandé par mon ami Thierry Herzog. Je suis un homme politique depuis 40 ans. Ma vie, ça a été de donner des coups de pouce. Il n'y a aucun doute, aucune gêne, aucun de mes mots ne laisse à penser que je suis dans de la corruption. Et puis Monaco, en fait, poursuit Nicolas Sarkozy, c'est presque une coïncidence. Mon avocat sait que je dois y aller avec Carla. Si ma femme avait fait une cure à Vichy, la présidente le coupe, ironique. Ah oui, ça c'est sûr, vous n'auriez pas demandé un poste de conseiller d'État à Vichy. Moi, ça ne me fait pas sourire, rétorque Nicolas Sarkozy, visiblement agacé, parce que je suis ici comme un corrupteur potentiel.
Compte rendu d'audience d'Anne Le Hennef pour RTL. On passe à la météo, Peggy Broche, vous nous le disiez, retour de la pluie dans le sud.
Exactement, Agnès, on a cet après-midi donc une perturbation qui va toucher le sud de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée avec quelques pluies, de la neige également en montagne à 1200 mètres sur les Alpes. Et un peu plus au nord, on a des nuages, mais on va retrouver, allez, juste entre la Vendée et la Franche-Comté, quelques éclaircies. Et encore plus au nord, sur toute la moitié nord, on garde un ciel bien gris, peut-être une ou deux trouées ici ou là, c'est pas gagné, mais enfin bon, vous savez qu'on enchaîne les journées plutôt grises sur toute la moitié nord et près de la Manche, toujours quelques averses avec un peu plus d'éclaircies, tout ça sous des températures qui sont encore bien froides pour la saison. On est encore en baisse sur toute la moitié nord, de 3 à 5 degrés au nord et jusqu'à 15 degrés cet après-midi dans le sud.
Merci beaucoup Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et notre tour de France nous emmène aujourd'hui dans les Côtes d'Armor à Lamballe, tout près de Guingamp.
avec Mathieu Lopineau. Bonjour Mathieu.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal et bonjour à tous.
L'Emballe ou la Coperle, une coopérative agricole, a eu l'idée de collecter, c'est incroyable, hein, collecter les graisses de cochon pour les transformer en biocarburant.
Effectivement, parce que dans le cochon, vous connaissez ces petites phrases, hein, dans le cochon, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, c'est l'idée de ce procédé unique au monde, hein, qui a quand même pris 10 ans de recherche, transformer des graisses de flottation, des déchets en quelque sorte, en biocarburant. Alors là, je me trouve au pied de l'usine de transformation avec Franck Porcher, le directeur de Coperle Environnement. Et devant nous, eh bien, une danse de camions aux citernes remplies de graisses issues de ces abattoirs et des ateliers de transformation.
Il ramène des graisses qui arrivent de nos installations, mais également d'autres installations locales. Des graisses d'égout, des graisses de lavage des process, des graisses qu'on peut retrouver dans les bacs d'épuration de ville, par exemple, hein, qui viennent des huiles de friture qu'on met dans l'évier, dans le caniveau, enfin voilà. Aujourd'hui, ça devient une vraie ressource, puisqu'on va pouvoir substituer des énergies fossiles qui sont le diesel par un biocarburant issu de matières premières organiques.
Mais comment peut-on transformer une graisse animale en biocarburant ?
Alors, c'est un processus complexe, vous l'imaginez bien, unique au monde d'ailleurs, une alternative aux énergies fossiles. Et Justine Bercy, chef de projet à Coperle Environnement, nous explique comment effectivement on peut passer d'une graisse animale, d'un déchet, à un biocarburant qui permet de faire rouler un camion.
On part d'un déchet, c'est comme le déchet que vous pouvez retrouver dans les égouts. Donc on a un premier atelier qui concentre la graisse qu'on a dans ce déchet. On chauffe le produit pour aller de cette matière qui est très contaminée à ce biocarburant et ensuite des étapes de purification. Le véhicule va surconsommer un petit peu, mais ça c'est dû au fait que c'est pas la même molécule. On est sur un carburant qui réduit à 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un gasoil.
L'objectif pour la coopérative Coperle, leader français de la production porcine, est de produire par an 10 millions de litres de ce biocarburant avancé, comme on l'appelle, pour pouvoir alimenter sa flotte de plus de 250 camions.
Et en plus, la particularité, c'est qu'on a créé un modèle qui ne nécessite aucune modification des moteurs. Ça fonctionne exactement en substitution totale au diesel. L'objectif pour nous, c'est effectivement que l'ensemble de nos poids lourds fonctionnent avec ces biocarburants et que nos adhérents puissent bénéficier de ce carburant-là pour leur propre flotte, un tracteur, moissonneuse, ainsi de suite.
La Coperle entend, avec ce processus, verdir sa flotte de camions à l'horizon 2025 et donc réduire son empreinte carbone.
Merci Mathieu Lopineau. Chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Direction Londres, aujourd'hui, le Royaume-Uni suspendu à la diffusion du documentaire Netflix qui doit être en ligne depuis 9h ce 9 matin. Heures. Harry et Meghan, il y a des gens qui sont insupportés par Harry et Meghan, ça ne les intéresse pas, et d'autres qui sont passionnés par cette histoire. Eh bien, on va être avec Marie Billon dans une seconde.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Meghan a tout sacrifié, y compris sa liberté, pour venir dans le monde qui était le mien. Et peu de temps après, j'ai décidé à mon tour de tout sacrifier pour vivre dans son monde à elle.
C'est donc le documentaire qui fait trembler Buckingham
sacrifié.
Palace.
C'est vraiment, c'est des mots sacrifiés. Moi, je vais leur montrer des gens qui sacrifient des choses.
Bon, en tout cas, Harry et Meghan, les trois épisodes sont disponibles depuis 9h ce matin sur la plateforme Netflix. Les médias britanniques étaient même en live ce matin pour commenter les épisodes. Nous, on prend la direction de Londres avec vous, Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Le couple star avait annoncé dans la bande-annonce vouloir raconter sa version de l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a des révélations ? C'est ce qu'on veut savoir quand même.
Écoutez, pas de grandes révélations. Beaucoup de détails sur les grandes lignes dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années, notamment sur comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. C'était par Instagram, on savait juste uniquement que c'était par rapport à des amis, ou alors comment se sont passés leurs premiers mois ensemble, ou alors un petit peu leur acclimatation à la manière dont ça se passait dans la famille royale. On savait que Meghan avait été surprise de rencontrer la reine alors que c'était pas prévu. Et là, il raconte un petit peu plus comment il lui a appris en vitesse à faire la révérence et comment on garde quand même de la formalité même dans un déjeuner du dimanche. Donc des petits détails comme ça.
S'il y a que ça, effectivement, c'est pas des exclusifs quand même comme information.
Et je Je vous laisse quand même écouter Harry qui parle un petit peu de la difficulté justement à s'adapter de cette étrange belle famille.
Je crois que les membres de ma famille, en particulier les hommes, peuvent avoir la tentation ou se sentir obligés d'épouser une personne capable de se fondre dans le moule. Ils prennent leurs décisions en écoutant leur raison plutôt que leur cœur. Or, ma mère s'est laissée guider par son cœur quasiment toute sa vie. Et je suis le digne fils de ma mère.
Peggy Broche remarque avec justesse que la voix qui double Harry fait presque sens dans ce commentaire. Mais vous avez raison, Peggy. Dans ce documentaire, on voit des interviews du couple, des images d'archives qui racontent la grande histoire, mais aussi des moments où ils se filment avec leur propre téléphone. Et ce, depuis des mois. Pourquoi ils ont fait ça ?
Alors écoutez, ils disent que c'est des amis qui leur ont dit au début vous devriez documenter un petit peu tout ce qui est en train de se passer, on verra si c'est utile. Et effectivement, Harry explique oui, c'est vrai, on s'est dit que ça faisait sens de peut-être documenter ce qui se passe. On savait pas trop pourquoi, mais on l'a fait. En même temps, petite contradiction, si on veut jouer les détectives, je vous laisse écouter un petit son de Meghan qui dit avoir été très naïve au début.
Je croyais encore à toutes leurs paroles rassurantes, que ça allait se calmer, s'améliorer, qu'ils sont toujours comme ça au début. Cette promesse qu'une fois que l'on sera marié, tout ira pour le mieux. Mais la vérité, c'est que j'avais beau faire tous les efforts du monde, me montrer toujours sous mon meilleur jour, ils trouveraient toujours un moyen de me nuire.
Alors effectivement... Effectivement, donc là, Meghan est en train d'expliquer que on lui avait dit que ça irait mieux et que ça n'allait pas mieux. Il y a un petit parallèle justement avec Diana, qui elle aussi, à chaque fois, on s'est espéré que la famille royale allait plus l'aider, allait plus venir en aide, et finalement, ça s'est empiré et empiré. Et il y a ce parallèle entre Meghan et Diana qui court vraiment pendant les trois épisodes.
Alors, on s'attendait à un documentaire terrible, hein, et surtout la famille royale le craignait. Ça n'a pas l'air d'être le cas, Marie.
Non, alors effectivement, il y a cette petite phrase d'Harry qui dit que les hommes de la famille se marient pour le devoir plutôt que pour le cœur. On pense évidemment à William et Kate, le prince et la princesse de Galles. On se demande si
c'est une révélation que des rois se marient et que la raison l'emporte. Je vous assure, c'est pas une grande révélation.
C'est un petit pic quand même à son frère qui est censé avoir épousé quand même la femme qu'il a choisie plutôt que la femme parfaite pour devenir reine. Mais en attendant, non. Pour l'instant, il n'y a pas ces pics immenses à la famille royale. On sait que beaucoup d'employés du palais se sont certainement branchés sur Netflix pour regarder tout ça très tôt ce matin. Mais ils n'ont pas dû manger leur chapeau. Le roi et le prince de Galles, William, eux, a priori, ne comptaient pas regarder. Ils pourraient, ils ne seraient pas trop choqués. Mais évidemment, ce ne sont que les trois premiers épisodes. On verra si les trois prochains sont un petit peu plus piquants.
Et Marie, on rapporte, oui, on l'espère, dit Agnès Bonfillon, bon, qui a une âme de midinette peut-être.
Midinette, non, je suis un petit peu intéressée. Quoi.
Paraît-il que le couple royal ou princier ait touché 100 millions d'euros de Netflix pour produire ou pour être dans ce documentaire, Marie Billon, c'est confirmé ça?
Ils ont produit avec Netflix ce documentaire à l'aide de leur boîte de production qui s'appelle Archwell. Donc c'est en tout cas certainement des moyens en partie de Netflix pour créer ce documentaire, mais ils n'ont pas laissé faire Netflix, ils ont eu la main un petit peu sur tout ça. Donc ça n'est pas non plus que être payé pour parler, c'était aussi avoir la main mise sur l'éditorial quand même pour le coup.
Merci Marie. Tout ça pour ça. Merci. La pause.
Ça va. Mais pas encore regardé.
Bah, écoutez, moi j'ai écouté Marie Billon. Y a pas
ça
grand...
donne pas envie. Hein.
Je crois qu'elle a tout dit. Bon, à tout de suite.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Votre vie.
Changer d'assurance en cours de contrat est-il synonyme d'économie ? Souvent, oui, ça vaut le coup d'ouvrir nos jolies pochettes, nos classeurs, n'est-ce pas Peggy, dans lesquels sont nos contrats. C'est laborieux, mais franchement, on peut économiser pas mal. On va voir tout ça avec vous, Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
D'abord, il faut dire, Armelle, que depuis la rentrée, il est plus simple de changer d'assurance emprunteur, cette assurance que l'on contracte pour un prêt immobilier. Ça peut vraiment nous aider en termes de pouvoir d'achat.
Oh que oui, vous pouvez faire de réelles économies, 500 euros par an en moyenne, en renégociant votre assurance emprunteur. Mais c'est encore plus flagrant si vous êtes jeune et en début de prêt. Par exemple, un couple de 33 ans a emprunté il y a deux ans 300 000 euros sur 25 ans. Bah, le taux, on s'en moque, ça compte pas dans le calcul. Il payait 112 euros par mois d'assurance emprunteur. Eh bien, en renégociant aujourd'hui, à garantie équivalente, donc ils sont couverts pareil, ils payent 56 euros par mois, deux fois moins. Ce qui leur fait au total une économie de 15 600 euros sur la durée de leur prêt. Et puis j'ai un autre exemple d'un couple de 45 ans. Ils ont emprunté 200 000 euros sur 20 ans. L'assurance leur coûtait 108 euros par mois. Aujourd'hui, c'est 88 euros. Ils gagnent 30 euros par mois, 360 euros sur l'année. Ce n'est pas négligeable.
Bon, a priori, en dehors de l'assurance emprunteur, il y a deux grandes assurances que beaucoup de gens ont. C'est l'assurance habitation, multirisque, et l'assurance voiture. Oui. Donc on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Quels sont vos conseils avant de sauter le pas pour ces deux assurances ?
Bah déjà, pour l'assurance emprunteur, déjà, je vais quand même vous dire, c'est une assurance sur votre prêt qui couvre le décès, l'invalidité, l'incapacité temporaire de travail. Donc s'il y a un pépin, l'assurance prend en charge la mensualité du prêt. Donc si vous êtes à 100%, ça prend tout. Et si vous êtes à 50%, ça couvrira la moitié. Donc quand vous renégociez, vérifiez bien à chaque fois que ce sont les mêmes garanties chez l'autre assureur. Généralement, c'est le cas. Deuxième chose, vous y gagnerez plus à changer si vous avez moins de 50 ans et si vous êtes en débit de prêt, au premier tiers de votre prêt. Plus vous reste à payer, plus l'économie sera importante. Et puis, il y a quand même des éléments quand même dans les assurances qui peuvent vous desservir. Le fait d'être fumeur, ça fait monter le taux. Mais ne mentez jamais, jamais. Parce que les experts peuvent refuser de vous indemniser lors d'une maladie s'ils vous retrouvent en photo avec une cigarette sur les réseaux sociaux qui date de moins de 2 ans. Et puis une dernière chose, hein, ce sera toujours mieux en changeant, mais vous payez quand même plus cher parfois en fonction de votre profession. Si vous êtes coiffeur parce que vous êtes debout tout le temps, c'est une profession à risque, ou couvreur, vous montez sur les toits, ou policier, vous paierez plus cher qu'un cadre dans un bureau.
Alors au-delà de l'assurance emprunteur, Armelle, comme le demandait Pascal, peut-on être tenté de renégocier nos autres contrats ? En tout cas, est-ce que ça vaut le coup ?
Bah, oui, bien sûr, hein, ça vaut le coup, surtout que c'est... très cher en fait, une assurance, et la fidélité ne paie jamais, jamais, jamais en assurance. Les assurances auto et les assurances santé ont augmenté de 25% en 10 ans, l'assurance habitation de 35% en 10 ans. Donc si vous laissez passer tranquillement les hausses sans bouger, vous y perdez forcément, la prime s'alourdit, et en plus, vous n'êtes plus assuré pour ce qu'il faut. Si votre voiture, eh ben, elle a 10 ans maintenant, et votre contrat, bah, il datait d'il y a 10 ans, c'est peut-être plus la peine de l'assurer tout risque. Ça peut être juste au tiers. Le logement, c'est pareil. Si vous avez une pièce de plus ou de moins, c'est peut-être aussi intéressant de changer votre contrat pour avoir les bonnes garanties. Donc, c'est bien de changer en général d'assurance tous les 2-3 ans pour l'adapter à vos besoins. Et n'hésitez pas à regarder les comparateurs pour modifier vos garanties.
Merci Armelle.
Merci Armelle. La fidélité ne paye pas. On parle bien sûr d'assurance. Pour le reste, c'est une évidence. 12h27, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
Le 12-30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Agnès Bonfillon.
Innocenté 20 ans après l'incroyable histoire d'un homme accusé à tort d'agression sexuelle et de viol. La plaignante est revenue sur ses accusations. L'audience avait lieu ce matin. Le gouvernement prolonge le guichet électricité pour les artisans l'année prochaine. Annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Nous verrons ce qu'en pensent les boulangers qui, vous le savez, sont en très grande difficulté. À suivre également, la Haute Autorité de Santé qui autorise 2 nouveaux vaccins contre le Covid, dont celui de Sanofi, des vaccins qui serviront de rappel. Et ce message bouleversant de Céline Dion ce matin sur les réseaux sociaux, la star québécoise reporte une nouvelle fois sa tournée et surtout, elle dit souffrir d'un syndrome très rare. À 12h40, l'épopée incroyable de Christophe Bourou à bord d'une voiture autonome. Stressé ou en mode détente, notre journaliste, Il nous dira tout juste après le journal. Et puis votre rendez-vous culture, laissez-vous tenter midi, ce sera à 12h50. Aujourd'hui, Avatar, le retour, La Voix de l'eau, Stéphane Boutsock l'a vu en avant-première. La question du jour concerne la voiture autonome. Et vous, êtes-vous prêt à vous installer dans un tel véhicule? Et puis on passe à la météo. Et bien évidemment, Peggy, un indice sur ce qui nous attend cet après-midi?
Ça va être gris quasiment partout avec le retour des pluies par le sud.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est extrêmement rare, mais cela arrive. Nous commençons par cette incroyable histoire. Un homme innocenté, 20 ans après les faits.
Oui, on voit mal comment la cour de révision pourrait ne pas blanchir Farid. Farid qui a dû vivre accusé de viol et d'agression sexuelle, condamné, fiché. La plaignante a enfin reconnu, il y a 5 ans, avoir menti. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Tout a commencé par une lettre.
Oui, nous sommes en 2017, Julie est devenue maman et après un long travail en psychothérapie, elle décide d'écrire au procureur de Douai. Je vous confesse avoir menti, Farid n'est coupable de rien. La vérité est la suivante, j'ai été victime d'inceste répété de la part de mon grand frère entre mes 8 et 12 ans. La jeune femme explique s'être retrouvée enfermée dans son propre mensonge, une fuite en avant jusqu'au procès. Coincée dans l'emprise du secret familial, elle se dit prête à assumer les conséquences de ses actes. La justice met du temps à réagir, mais c'est le parquet général lui-même qui va finir par saisir la cour de révision, et c'est absolument rarissime.
L'audience à la cour de révision, on le disait, avait lieu ce matin, Cindy. Farid a donc demandé avec beaucoup d'émotion qu'on lui rende son innocence, moment très fort.
Oui, il faut se figurer un homme qui a désormais des cheveux blancs parler du gamin brisé à 17 ans par ses accusations qu'il ne comprend pas.
Le plus atroce, c'est d'être emprisonné dans sa tête. Parce que tous les jours, pendant 23 ans, je vous laisse imaginer, je me posais la question, le pourquoi. Pourquoi moi et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, je sais pourquoi. Voilà, j'étais vraiment sous les émotions. Je leur ai demandé de me rendre ce qui m'est dû, être innocenté. Ça fait 23 ans que j'attends ça, que je puisse passer à autre chose et surtout mes parents qui sont gravement malades puissent profiter de cette bonne nouvelle.
Il y avait des frissons et des larmes ce matin à entendre les avocats de Farid, mais aussi de Julie, réclamer une annulation pure et simple de cette condamnation sans passer par un nouveau procès. Là encore, ce serait tout à fait exceptionnel. Farid sera jeudi prochain si son nom est blanchi.
Merci beaucoup Cindy Hubert.
RTL Midi.
Alors que le nombre de cas de Covid continue d'augmenter, la Haute Autorité de Santé donne son feu vert pour 2 nouveaux vaccins.
Oui, des vaccins développés par les laboratoires Sanofi et Novavax. Ces 2 nouveaux sérums vont pouvoir être utilisés pour les rappels à Gatlandais.
Oui, 2 vaccins fabriqués à base de protéines recombinantes, une technologie plus classique que l'ARN messager qui continue encore d'inquiéter certains Français. Les vaccins de Novavax et Sanofi vont donc pouvoir eux aussi être injectés en rappel comme ceux de Pfizer et Moderna. La HAS continue de dire qu'il faut privilégier plutôt les vaccins ARN adaptés aux variants actuels et donc plus efficaces, mais elle offre donc une alternative aux personnes plus inquiètes. L'importance de vacciner maintenant et vite les plus fragiles. Un rappel est recommandé aux plus de 80 ans 3 mois après la dernière dose et aux moins de 80 ans à risque 6 mois après la dernière dose.
Merci beaucoup Agathe Landé.
Le gouvernement prolonge le guichet électricité pour les artisans, annonce ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Une prolongation à destination des PME, c'est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés qui peuvent bénéficier de réductions sur leurs factures d'électricité. Cette aide, on le rappelle, devait initialement disparaître à la fin de l'année. C'est un soulagement pour Dominique Enracte, il est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, même si cela n'empêchera pas, dit-il, une augmentation de la baguette pour survivre.
Oui, je suis satisfait parce qu'on a eu quand même un effort de fait. Ce qui était fait, c'est qu'on avait un premier amortisseur qui faisait 20%. Et là, avec le guichet unique qui va être déclenché pour les boulangers, on devrait arriver à avoir un abattement de 40% sur la facture d'électricité. Alors, au lieu de x4 ou x5 une facture d'électricité, ça sera x2. Donc on sait qu'en augmentant les prix de nos produits, du pain dans les boulangeries, si on est aux alentours de 5%, on peut couvrir cette augmentation. Donc on sait que les entreprises seront viables.
Le président de la Confédération nationale de la boulangerie au micro RTL, Darmel Lévy. Au Portugal, au moins une personne est morte la nuit dernière dans les terribles inondations qui ont frappé la région de Lisbonne. Une victime âgée de 55 ans se trouvait dans une cave submergée par les eaux. Céline Dion reporte pour la quatrième fois ses concerts. La chanteuse révèle ce matin dans une vidéo postée sur Instagram être atteinte d'une maladie auto-immune, également appelée syndrome de la personne raide.
On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février.
La chanteuse précise effectivement que les 23 dates prévues de février à avril sont reportées. Elle pourrait remonter sur scène le 26 août à Amsterdam. En tout cas, son concert événement au Festival des Vieilles Charrues est annulé.
RTL Midi.
J-2 avant le quart de finale France-Angleterre. La tension monte.
La tension, l'excitation avant cette rencontre inédite, puisque les deux équipes ne se sont jamais affrontées dans un match couperé. Outre-Manche, les supporters sont fébriles. On va le dire comme ça, hein. Mbappé fait peur, Marie Boueda.
Un nom revient sur toutes les lèvres.
Mbappé, quel joueur, il est très rapide.
Very fast. John, pommette rose et casquette bleue sur la tête, sort d'un pub. Il vient de réserver sa place pour samedi soir.
Il va venir chez nous, City ou United. La France va gagner 3-1, l'équipe anglaise n'est pas assez bonne.
Chris, plus prudent, préfère ne pas s'avancer sur un score. Il passe plusieurs fois sa main dans sa barbe avant de répondre.
Je ne sais pas comment on va faire. Mbappé est le meilleur joueur du monde. Probablement meilleur que Messi, n'est-ce pas ? Il est fort, il est intelligent.
Et même si Molly admet que ça va être compliqué, hors de question de baisser les bras, jusqu'ici les joueurs anglais l'ont rendu fier, ils n'ont pas perdu un match depuis le début de la Coupe.
Nous avons de bons talents, ce sera un grand match. On va gagner, mais ça va être dur. On craint cette équipe, Mbappé en particulier. Et c'est dommage qu'on joue contre la France en quart de finale.
Le plus gros obstacle, c'est la France, selon elle. Alors si son équipe l'emporte samedi, Molly la voit déjà championne du monde.
France-Angleterre, un match à suivre samedi, bien évidemment, sur RTL. Et puis sachez que l'autre star de ce mondial chez les Bleus, c'est Olivier Giroud. Dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction, Marion Calais et Nicolas Georgerot reviennent sur la trajectoire de ce joueur. Qatar 2022, Olivier Giroud, la consécration d'un mal-aimé, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur toutes les plateformes.
Vous l'avez évidemment constaté, les températures dégringolent.
Et visiblement, ce n'est que le début. Peggy acquiesce, le week-end s'annonce glacial. Célestin Bougère, vous vous êtes rendu sur un marché dans le 16e arrondissement de Paris. Les commerçants sentent le changement depuis quelques jours.
Et oui, il fait bien froid ici, les doudounes élégants sont de sortie, surtout pour les grands combattants du froid, les commerçants derrière leurs étables. Même s'ils sont habitués comme Kassim, un vendeur de spécialités libanaises, c'est toujours une épreuve.
On essaye de se réchauffer le mieux qu'on peut, quoi. Mais c'est toujours dur. J'ai une petite machine à café que je me sers souvent pour me réchauffer, quoi.
Et je vois que vous êtes bien équipé, vous avez combien de couches sur vous ?
3 couches. Un pull, un petit doudoune et le tablier. Et un petit gilet, la casquette et deux paires de chaussures.
Les clients aussi viennent affronter le froid et forcément les choix des aliments changent avec l'arrivée de l'hiver. Moins de fruits, plus de légumes pour Noémie. L'essentiel est de préparer des plats bien chauds.
J'ai acheté de quoi de faire de la soupe, donc la base, poireaux, carottes, pommes de terre, et puis on agrémente avec des choses qui donnent du goût, comme le céleri, pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'hiver.
Un plat plutôt classique pour ce type de température. Les clients que j'ai rencontrés m'ont également conseillé de ressortir l'appareil à raclette. Au choix, si vous préférez plutôt le fromage fondu aux légumes pour vous réchauffer.
Oh, les deux, on prend les deux, Célestin Bougère. Le reportage à Paris, donc de notre reporter. Mais il n'y a pas que dans le Nord, hein, Peggy Broche, qu'il fait froid. Changement de temps dans le sud ?
Changement de temps. Alors, on reste sur les températures de saison dans le sud, mais là où il y avait du soleil depuis quelques jours, et bien là, ce sont les nuages qui sont là, avec la pluie qui arrive, donc par le sud, entre le sud Aquitaine cet après-midi jusqu'à la Méditerranée, de la neige à 1200 mètres sur les Alpes du Sud. Et on aura... Allez, un peu plus d'éclaircies sur les régions centrales. Entre la Vendée et la Franche-Comté, ça devrait rester au sec, c'est un peu plus lumineux. Et un peu plus d'éclaircies également sur les bords de Manche, avec encore quelques averses. Mais ailleurs, sur le reste de la moitié nord, ça reste bien, bien nuageux. peut-être quelques trouées ici ou là, mais bon, c'est vraiment pas grand chose. Côté température, vous l'avez dit Agnès, ça reste froid au nord, hein. 1 à Langres, 2 à Rouen, 4 à Paris, on est bien en dessous des normales, 5 à La Rochelle, 7 à Grenoble, 8 à Bordeaux, 9 à Montpellier, c'est plus doux avec l'air plus doux qui arrive sur le sud et les pluies, 11 à Toulouse, 13 à Nice, jusqu'à 15 à Marseille et même 17 degrés à Ajaccio.
Merci Peggy, de bien entrer dans ce studio, notre ami Christophe Bourou.
Je vous écoutais toute la matinée, je me disais mais en fait j'ai pas du tout envie qu'on conduise ma voiture, c'est un plaisir de la conduire. Et même vous, vous aviez un peu peur, mais on va en parler dans une
mais
seconde.
Mais c'est comme un plaisir aussi de se laisser conduire.
Vous trouvez?
Bah dans les bouchons par exemple, c'est top.
Ouais, moi déjà j'ai du mal que quelqu'un d'autre conduise la voiture quand je suis à l'intérieur d'une voiture.
C'est bien le style à râler, vous.
Oui, c'est
non,
ce
je râle pas
dire.
D'ailleurs.
Mais
j'ai
envie de prendre le volant, ça je vous
mais garantis. C'est vrai que t'es, voilà, c'est un plaisir aussi de conduire. Et 12h42, on en parle avec Christophe Bourou, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Ce matin sur RTL, vous avez pu suivre Christophe Bourou entre Paris et Le Mans sans toucher le volant dans une voiture autonome. Il a connu l'autoroute, l'obscurité, le brouillard et il est là. Il est avec nous, Christophe. Ça va?
Ça va bien. Sans les mains et sans les pieds non plus, hein, sur les pédales.
Alors tout d'abord, Christophe, on va rappeler que vous n'étiez pas derrière le volant pour une question de sécurité.
Oui, c'est la législation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en cas de pépin, quelqu'un doit obligatoirement pouvoir reprendre le contrôle de la voiture. J'avais donc un ange gardien à mes côtés qui, finalement, n'a rien eu à faire, puisque tout s'est bien passé. Ce qui est quand même incroyable, c'est que vous voyez, enfin, la première chose qui frappe, c'est le volant qui tourne tout seul. Là, vous dites, non, mais il y a un homme invisible à l'intérieur, ou c'est télécommandé, il se passe un truc. Non, 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 le volant bouge tout seul. Et à des vitesses, on est monté quand même à 130 km/h. C'est une voiture qui est très respectueuse, évidemment, du code de la route. Mais à 130 km/h, vous n'avez qu'une envie, quand même, instinctivement, c'est de reprendre le volant. C'est humain. C'est quand même une sensation extrêmement bizarre. Et puis la voiture dépasse, double, toute seule. Elle met son clignotant, elle estime qu'elle peut dépasser, et elle dépasse. On a dépassé, il y avait beaucoup de camions ce matin sur la route, et vous passez tout près des camions parce qu'elle passe à une distance qu'elle estime normale pour la sécurité. Et là, c'est quand même aussi très impressionnant.
Mais c'est une voiture normale, si j'ose dire, c'est extérieurement, personne ne s'en rend compte.
Non,
c'est un modèle.
C'est une Peugeot 3008, donc oui. C'est SUV qui est très vendu. Simplement, vous avez en fait caché dans la voiture des radars extrêmement puissants. Ce que je disais ce matin, c'est un peu l'œil d'une mouche qui voit à 360 degrés tout autour de la voiture, des capteurs, des dizaines de radars, qui fait qu'il n'y a aucun angle mort, et puis la voiture est capable de voir jusqu'à 200 mètres en amont. Donc il peut se passer quelque chose, elle réagit très vite. Un exemple, nous, quand on voit un accident, on met, allez, 2 secondes pour réagir. Et encore 2 secondes, c'est assez rapide, hein. 1 seconde pour réagir, 1 seconde pour freiner. Et là, c'est quelques millisecondes. Donc vous gagnez un temps infini grâce à tous ces capteurs qui sont dans la voiture.
Elle est plus sécure, à votre avis, que le conducteur que vous êtes ?
Oui, oui. Forcément, parce que la voiture réagit comme ça.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui peut se passer ?
Alors, ce qui peut se passer dans cette voiture, c'est qu'elle peut faire des erreurs d'interprétation, ou alors, parce qu'il y a Peggy à mes
côtés. C'est quoi une erreur d'interprétation ?
Non, mais alors, en fait, elle peut être trop prudente.
C'est-à-dire qu'elle prend la main.
Non,
elle se met en marche arrière sur l'autoroute ?
Le paradoxe, c'est qu'elle peut être trop prudente. On l'a vu dans pas mal d'essais, notamment aux États-Unis. Les voitures qui arrivent à un rond-point, elle voit un piéton qui arrive, elle voit un vélo qui arrive, elle voit une autre voiture. Bah, qu'est-ce qu'elle fait la voiture ? Elle attend. Et vous pouvez attendre quelques minutes dans votre voiture parce qu'elle se dit.
Mais ça, c'est pas grave à la limite.
Non, mais c'est embêtant. Grave. Donc c'est ce qui va retarder un peu ce genre de.
Mais en revanche, est-ce qu'elle peut vous mettre en danger ? C'était un peu ma question. Il n'y a aucune possibilité qu'elle vous mette en danger.
Il y a toujours un risque, mais en tout cas, les
moins que pour un conducteur lambda.
Puisque dans un accident, on estime dans 90% des cas, c'est une erreur humaine. Là, on estime que, vous voyez, par exemple, Stellantis a fait plus d'1 million de kilomètres avec ses voitures et ils n'ont pas eu de bobo.
Mais ça peut être en panne quand même, le radar peut tomber en panne ou
Il peut être en panne pour des conditions météo, notamment quand il y a beaucoup, beaucoup de brouillard, quand il y a une pluie très, très forte. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le système se désactive et vous pouvez reprendre la main. Donc, c'est pas sûr à 100%.
Vous pouvez reprendre automatiquement, d'ailleurs, la main à chaque fois ?
Oui, à chaque fois.
À chaque fois.
À chaque fois.
C'est vraiment immédiat.
C'est immédiat.
Les voitures autonomes, Christophe, c'est pour quand concernant les utilisateurs que nous sommes ?
Ce type de véhicule, alors il faut savoir déjà qu'en France c'est autorisé, mais il y a très peu de véhicules autonomes, c'est-à-dire que vous avez le droit de circuler jusqu'à 60 km/h, en gros c'est dans les bouchons. Dans certaines circonstances, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de piétons, ni de cyclistes. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est très restrictif. Ce qu'on appelle le niveau 3. Là, on va passer au niveau 4. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir rouler en mode autonome.
Avec un permis basique.
Avec un permis basique. Mais il faudra reprendre le contrôle de la voiture. Par exemple, une zone de travaux où c'est un peu compliqué. Voilà, la voiture vous demande de reprendre la main. Et tout le monde pourra y avoir accès. C'est assez simple, c'est basique, et en fait les constructeurs vont mettre ça, Stellantis nous l'a dit ce matin, dès 2024. Alors ça sera sur du très haut de gamme, hein, ça sera pas sur toutes les voitures.
Ça va coûter cher, oui.
Et ça risque de coûter cher parce que Mercedes, qui a des systèmes un peu similaires, le vend 5
000
euros.
Justement, votre 3008, elle vaut combien ?
Ils n'ont pas encore communiqué les prix sur ces systèmes.
Oh, ça, c'est pas bon signe. Quand le prix est sur demande...
Je vous donne un ordre d'idée sur Mercedes, qui a des systèmes un peu semblables, on est de l'ordre de 5 000 euros.
Et pas plus que ça ?
Non.
Ah bon ? Et dernière chose, vous avez eu du plaisir, parce que le plaisir, ça compte.
Alors, le plaisir de conduite, bah non, évidemment, mais ouais, plaisir d'être en sécurité et de pas avoir à constamment être piégé par quelqu'un qui déboîte au dernier moment, qui met pas son clignotant. Et ça, c'est quand même hyper appréciable.
Bah, merci, Christophe Bourou.
Dans un instant, on reste un peu dans la science-fiction également, hein, on continue à parler. Science-fiction avec Stéphane Boutsock. On parlera du nouveau volet d'Avatar.
À tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
C'est un des événements cinéma les plus attendus de ces dernières années. La sortie mercredi prochain, le 14 décembre, de la suite d'Avatar, baptisée La Voix de l'eau. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Agnès, bonjour tout le monde.
13 ans après, donc, c'est toujours James Cameron qui est aux commandes. On rappelle d'abord, Stéphane, l'histoire du premier film.
Bien sûr, nous sommes au 22e siècle sur la planète Pandora, paradis naturel où vivent les Na'vi, un peuple pacifique en symbiose avec la nature. Des terriens attirés par les ressources minières de Pandora vont tenter de les coloniser, mais l'un d'entre eux, Jack Sully, prendra leur défense et grâce à un avatar deviendra l'un des leurs. En fait, c'est un western futuriste et écolo.
Et 13 ans après, donc, c'est toujours James Cameron, hein, qui est aux commandes.
Oui, à 68 ans, il a la lourde tâche de poursuivre la saga, puisqu'on parle tout de même du plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Avatar, c'est 3 milliards de dollars de recettes et en France, 15 350 000 spectateurs. Chez nous, c'est le sixième film le plus vu de l'histoire du cinéma. Autant dire que la pression sur les épaules de Cameron est titanesque. Mais quand je l'ai rencontré, c'était en fin de semaine dernière à Paris, le réalisateur canadien m'est apparu un peu moins à cran qu'en 2009, quand le premier film est sorti. Moins à cran, mais vous allez l'entendre, un peu tendu quand même, quand on lui demande tout simplement comment il se sent.
Yeah, nervous. Nervous, it's a big project.
Je dirais nerveux, car c'est un énorme projet dans lequel j'ai investi beaucoup d'argent et une partie de ma vie et de celle de mon équipe. Je pensais à ça durant les 40 heures de vol entre la Nouvelle-Zélande et ici. Je ressens comme une impuissance paisible, une sorte de vide, parce que je ne peux plus rien y faire. J'ai passé 5 ans à construire ce film pour qu'il soit le meilleur possible tous les jours, et là, ça ne dépend plus de moi. C'est fini, et ça fait tout juste 3 jours de cela.
On le disait, Stéphane, ça fait 13 ans qu'on attend cette suite d'Avatar. Pourquoi est-ce que ça a pris tellement de temps ?
Tout simplement parce qu'il fallait que les effets spéciaux auxquels rêvait James Cameron soient faisables. La Voix de l'eau, comme son titre l'indique, se déroule pour une bonne part dans un monde sous-marin et l'élément liquide, mais aussi la faune, la flore de la planète Pandora, tout ce que vous verrez à l'écran, eh bien tout ça est totalement fait en numérique. Les ingénieurs ont dû inventer des logiciels, les faire fabriquer pour ensuite donner une vie digitale à tout ce que Cameron avait fait dessiner, peindre ou sculpté. On parle d'un travail colossal de préparation qui a démarré en fait en 2017. Cameron le disait, ça fait donc 5 longues années de tournage et de post-production. Tout ça réalisé en Nouvelle-Zélande, là où le réalisateur a depuis longtemps installé ses studios.
Ça veut dire qu'il n'y a que des personnages En effets spéciaux.
Non, pas du tout. Mais des acteurs en chair et en os ont joué les scènes de leurs avatars. Ils ont joué bardés de capteurs numériques répartis sur leurs costumes qui ont reproduit tous leurs mouvements, c'est ce qu'on appelle la motion capture, et puis aussi les expressions de leur visage avant que leur double informatique ne soit créé. C'est le cas de Sigourney Weaver, qui elle a quelques scènes en vrai, si je puis dire, mais aussi de Kate Winslet, de Sam Worthington ou de Zoe Saldana, qui eux n'apparaissent jamais, vous le verrez, sous leur forme humaine dans le film.
Alors ça, c'est pour la saga Avatar, Stéphane, mais vous ne nous avez pas encore dit ce que racontait cette suite, La Voix de l'eau.
Ben en fait, j'ai pas le droit. Il y a un embargo c'est qui court jusqu'à mardi prochain 13h. C'était la condition non seulement pour voir le film avant tout le monde et pour interviewer James Cameron. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que j'ai à mon sens vu le plus beau film de science-fiction depuis une bonne dizaine d'années, qu'on y parle d'écologie, de famille, et que ces fameuses scènes qui se déroulent sous l'eau sont absolument prodigieuse. Je vous conseille de voir le film en 3D, on peut le voir en 2D classique mais aussi en 3D, parce que là aussi la technologie des lunettes qui avant était un petit peu embêtante, ben maintenant cette technologie a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Notez qu'on n'en a pas fini avec Avatar, puisque 3 suites encore sont prévues, on en a pour jusqu'en 2028. On sait déjà qu'Avatar 3 sortira pour Noël 2024.
Et c'est James Cameron toujours.
Alors il va faire logiquement les 5. Le 3 est entièrement tourné, le 4 en partie, le 5 reste à tourner. Donc oui, il veut aller au bout de l'aventure.
Il ne va plus faire que ça.
Jusqu'à la fin de sa carrière de cinéaste, sans doute.
Parce qu'il a 68 ans.
Mais quand même, Titanic est repassé à la télé hier.
Formidable d'ailleurs.
On se souvient d'Abyss, il a fait Terminator, il a fait Alien, mais une carrière folle. Ce type est un génie.
C'est des génies.
Merci beaucoup Stéphane. En tout cas, on vous retrouve dimanche matin dès 9h15 dans Laissez-vous tenter autour d'Anthony Martin avec d'autres extraits de cette interview de James Cameron et bien sûr tout mercredi 14 décembre sur RTL pour la sortie du film sur nos écrans. Merci à vous.
Les auditeurs se préparent, la question football se prépare et va vous surprendre la question football aujourd'hui de Jean-Michel Rascol. Je ne vous dis que cela dans une seconde. Nous revenons.
RTL Midi.